Je suis un peu essoufflé parce qu'on vient de chanter et c'était très beau. C'est dommage, vous qui n'êtes pas là à la chapelle du sanctuaire, qui écoutez seulement sur Internet, il faudrait quand même que vous vous bougiez pour que vous veniez participer avec nous à un culte. C'est magnifique. Ah, il faut que je me remette. Voilà, nous allons lire le psaume 46, versets 1 à 9 ensemble. Alors, dimanche passé, je vous disais que j'allais vous prêcher vendredi sur la contemplation. Et vendredi, j'avais complètement oublié que je devais prêcher lors d'une nuit de prière à Saint-Ouen. Donc voilà, le message que je vais vous apporter vendredi, je vous l'apporte ce matin. Et voilà, vous n'avez rien perdu, vous l'aurez ce matin à la place de l'avoir eu vendredi. Je vous lis 46, psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui se trouve toujours dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand leurs eaux grondent, écument et branlent les montagnes en se soulevant. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle ne chancelle pas. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations grondent, des royaumes chancellent, il fait entendre sa voix. La terre se dissout. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. C'est beau, hein? Très beau. Très, très beau. Donc voilà, vendredi soir, on était là-bas et j'ai prêché à 2h du matin. Au bout de 5 minutes, on est venu me mettre un papier sur le pupitre pour me dire que j'en avais pour 3/4 d'heure. Au bout de 3/4 d'heure, il y a un bonhomme qui s'est planté devant moi pour me dire qu'il fallait arrêter parce que mon temps était fini. Et j'ai dit non, je termine ce que j'ai à dire. Et puis ensuite, quand j'ai eu terminé ce que j'ai eu à dire, on a encore chanté et chanté et chanté et dansé. Les gens se roulent par terre. Voilà, c'est beaucoup plus important que la parole de Dieu, n'est-ce pas, de se rouler par terre et de chanter, 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 chanter. Dieu doit en avoir marre de ces chants. Mais qu'est-ce qu'il doit en avoir marre de ces chants? Ce qu'il voudrait, c'est changer la mentalité de son peuple. Et ça, il n'y a que la parole de Dieu qui peut le faire. Ce n'est pas les chants. Amen. Ce n'est pas les chants. Et nous ne changerons pas notre façon de faire nos cultes. Nous avons raison, mes frères et sœurs. Nous avons raison. C'est la parole de Dieu en premier. La parole de Dieu. Pas la Bible, la parole de Dieu. Ce que Dieu a à dire aujourd'hui. Bien sûr, la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais comme je vous disais l'autre jour, Dieu a encore à parler aujourd'hui à nos cœurs. Et c'est ce que nous sommes, c'est pourquoi nous nous réunissons, c'est pour écouter ce que Dieu a à dire au travers des ministères. Ça, c'est important, c'est le plus important dans notre vie. Chantez, mais chantez tant que vous voulez, mais le moment de la parole de Dieu, c'est le plus important. Donc, on est sorti de là-bas à 6h du matin, et puis voilà, maintenant il a fallu à peu près tout le samedi pour s'en remettre. C'est vrai que j'ai plus 20 ans maintenant. Hein. Au bout d'un moment, là, voilà, une nuit comme ça, ça me déséquilibre. Il faut que je retrouve ensuite mes points de base. Frères et sœurs, ce que je voudrais vous dire, c'est que on n'a pas à imiter les Africains ou à imiter les Américains ou à imiter ceci, cela. On doit être nous-mêmes. On doit être nous-mêmes. Dieu nous a donné une identité et on nous aime ou on ne nous aime pas, puis c'est tout. On est nous, ce que Dieu nous a donné. Moi, je n'aime pas le bruit. Voilà, je suis désolé, je n'aime pas quand ça crie, je n'aime pas. J'aime écouter Dieu dans le silence, dans le bruit, j'entends rien que le bruit. Ça me distrait, je ne peux pas être... je ne suis pas bien. Donc voilà, je comprends que d'autres puissent, mais moi non, moi je ne peux pas. Alors, je ne me sens pas moi-même non plus, il faut que je hurle mes prédications. Je voyais ces prédicateurs, ils tenaient leur micro comme ça, par la boule du micro. Voilà, ça donnait ça. Non, au secours, pitié. Non, je ne peux pas. Pourquoi faire ça? Pourquoi? Hein, ça fait mal, même les enfants disent ça fait mal. C'est affreux. Donc voilà, je continue à faire comme Dieu m'a appris et ça marche très bien. je constate que les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques marchent, les jambes se rallongent, les goitres disparaissent, les cancers sèchent et disparaissent. Gloire à Dieu, c'est ça qui est important. Amen. Les gens sont sauvés, les églises sont créées un peu partout. Notre travail est béni de Dieu. Et tant pis si on pense que je suis mort parce que je hurle pas. Voilà, Dieu fait comme il entend au travers de moi. Je suis désolé, c'est en Suisse, on a un esprit de douceur qui repose sur notre pays, et voilà, et c'est bon, depuis que je suis en France, j'ai pris un peu l'esprit français, mais quand même, j'aspire à tout à cette douceur, à cette sécurité, à cette tranquillité. Et ce n'est pas parce que je fréquente beaucoup d'Africains que je vais devenir Africain. Un peu, il faut se faire tout à tous, un peu, mais aussi il faut qu'il se fasse un peu à nous. Parce que finalement, s'ils nous invitent, c'est parce qu'ils ont besoin de recevoir quelque chose. Et ce que nous avons, ce n'est pas rien du tout. Regardez ce que Dieu a fait et continue à faire au travers de nous. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Il y a quelque chose là. Et je vais vous donner ce matin des secrets sacrés. Des secrets sacrés, des choses sacrées qui vont vous éclairer encore davantage, vous aider à ouvrir les portes de votre entendement spirituel. On entend beaucoup parler de méditation. Ça serait bien si le peuple de Dieu méditait, parce que le mot méditer, beaucoup ne savent pas, hein, mais le mot méditer signifie réfléchir. Et malheureusement, on ne réfléchit pas beaucoup dans ces milieux-là. Ça serait bien qu'on réfléchisse davantage. Mais bon, la réflexion, ce matin, ce n'est pas là-dessus que je vais prêcher. C'est une bonne chose, mais ce n'est pas là-dessus ce matin que je vais prêcher. Une excellente chose que de penser profondément sur un sujet. On peut méditer sur tout, on peut méditer sur la Bible. Par contre, quand on regarde dans la Bible, les gens qui méditaient, c'est bizarre parce que la majorité des gens qui méditent dans la Bible, eh bien, ils méditent l'injustice, leur ruine, un malheur, ils méditent sur la perte de quelqu'un, comment ils vont pouvoir le perdre, le tromper, ils méditent au sujet d'un crime, ils sont en train de préparer des crimes, ils méditent au sujet des mauvais desseins, qu'ils ont là des projets mauvais. Et c'est une minorité qui médite le bien, qui médite les ordonnances de Dieu, qui médite les sujets, qui médite le sujet des œuvres de Dieu. Très peu réfléchissent là-dessus. Là, chaque fois, vous prenez votre concordance et vous allez voir le mot méditer, c'est la plupart du temps sur des choses mauvaises que les gens méditent, réfléchissent. Ce matin, on ne va pas parler de méditation, on va parler d'autre chose, on va parler de la contemplation. C'est autre chose, c'est quelque chose que dans les milieux surtout charismatiques, on a laissé complètement de côté, enfin la plupart des charismatiques, 99% ont laissé de côté cela. C'est très dommage. Moi j'aime la contemplation. Contempler, ça commence par la chose la plus simple, la manière la plus simple, c'est premièrement s'asseoir et rester tranquille, rester silencieux. Sans rien dans les mains, pas de musique, tranquille, sans rien faire. J'adore la contemplation. Et puis, avant de vouloir orgueilleusement contempler les choses invisibles de Dieu, commencez déjà par contempler les choses visibles de Dieu, ce que Dieu a créé. Émerveillez-vous. Émerveillez-vous en contemplant les choses que Dieu a créées. Hein, c'est une bonne chose. Je voudrais ce matin vous parler de porter votre attention, votre contemplation vers l'intérieur de vous-même, c'est-à-dire là où trône Jésus. On voit au verset 5, là il est dit, ce qu'on a lu, « Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle ne chancelle pas. » Où est-ce qu'il est Dieu? Où est-ce qu'il habite Dieu? Eh bien, il habite dans nos cœurs, voilà son sanctuaire. Et c'est un endroit tranquille, qui ne chancelle pas. Tout autour de nous fait du bruit, saute, crie, tremble, s'effondre, mais nous non, à l'intérieur de nous. Donc il est bon de rentrer en nous-mêmes, non pas pour analyser nos péchés, analyser nos manques, nos fautes, mais contempler la maison de Dieu. Alors contempler Dieu en nous-mêmes, entrer en nous-mêmes, pas en réfléchissant, non, simplement en contemplant. Contempler cette habitation que Dieu a choisie, c'est là qu'il vit, en vous. Pas entre vos boyaux et vos poumons. Je parle du spirituel, hein. Je parle du spirituel. Focalisez sur votre âme, sur votre être. L'âme, ça veut dire l'être. Être sur votre être. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie focaliser? C'est un mot, ça vient du mot focus. Et focus, ça signifie simplement foyer. Centre, le centre. Focaliser sur le centre. sur vous-même, sur votre âme. Ça signifie, faites converger, si vous voulez, un faisceau lumineux sur votre âme. Observez, contemplez votre être, regardez ce que Dieu a fait. Regardez, David le faisait, il en est arrivé à dire, mais mon Dieu, je te loue de ce que je suis une créature si formidable, si merveilleuse. Pourquoi? Parce qu'il s'est contemplé, il a regardé en détail. Éclaire ton âme avec la lumière du Saint-Esprit qui est en toi. Éclairer votre être avec la lumière de Dieu, ça signifie entrer en harmonie, en non-jugement. Vous savez, je vous prêche souvent sur les origines du bien et du mal, la connaissance du bien et du mal, et je vous dis que nous ne sommes plus dans cette connaissance, nous sommes maintenant dans la connaissance de Dieu. Hein? La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, Dieu, et non pas la connaissance du bien et du mal. Je vais vous expliquer d'une façon un peu crue d'où vient, comment nous sommes confrontés en tant qu'êtres humains à la connaissance du bien et du mal. À quel moment ça se passe? Ça va être un peu cru. Ne soyez pas choqués, les oreilles sensibles. C'est pour vous faire comprendre et pour que ça vous marque, pour que ça vous choque, pour que vous en souveniez. Alors j'ai choisi cet exemple, d'ailleurs qui est vrai. Les psychologues vous le disent. Ah Michel, tu prêches la psychologie. Ben, si vous voulez, je prêche la psychologie, si vous voulez. Si vous voyez ça, c'est bien. Tout bébé, on nous a fait comprendre que mal, c'est faire caca dans la culotte. Et bien, c'est faire caca aux toilettes, au pot. Donc, ce n'est pas de faire caca qui est bien ou mal. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là où on le fait. Vous voyez la chose? Bien ou mal? C'est bien, mais pas n'importe où, pas n'importe comment, pas n'importe quand. Alors, je reviens à nous, hein, notre être, notre âme, ce que nous sommes. Eh bien, vous êtes bien et vous êtes mal. Vous êtes bien, vous êtes mal. Donc, si vous êtes bien et mal, vous n'êtes ni bien ni mal. Il faut mettre la lumière de Dieu là-dessus. Il faut voir. Voilà pourquoi Dieu vous regarde et il n'y a pas de jugement contre vous. Voilà pourquoi il n'y a pas de jugement contre vous. Qu'est-ce qui est bien? N'y réfléchissez pas. Ressentez que vous êtes bien. Pensez comme Dieu pense à votre sujet. Dieu vous voit sans péché, il vous a purifié, il vous a lavé, vous êtes bien. Et c'est naturel d'être vous tel que vous êtes, c'est bien. Vous êtes bien, mais comme vous êtes mal aussi, donc faites attention. Voilà, votre être est fait de votre corps qui est créé, qui possède des acquis génétiques hein, par votre héritage, n'est-ce pas? Et cet être, il a aussi développé des besoins, il a développé une personnalité tout au long de son existence. Et votre âme, votre être, il est aussi composé d'un esprit qui est éternel. Hein, le corps, il retourne à la poussière d'où il est venu. Et puis l'esprit, il retourne à Dieu d'où il est venu. C'est écrit dans l'Ecclésiaste. Contemplez donc votre être à la lumière du Saint-Esprit. Ça vous aide à voir la différence, non pas entre le bien et le mal, mais entre le spirituel et le charnel. Le charnel n'est ni bien ni mal. Et le spirituel n'est que bien, puisqu'il vient de Dieu. Le charnel, ce n'est pas le mal. Ce n'est pas le bien non plus. Excusez-moi, c'est comme le caca. Ça dépend ce que vous en faites. Ça dépend comment vous manifestez ça. C'est tout. Vous êtes des êtres charnels et spirituels. Alors, pour éviter que le charnel agisse mal, c'est-à-dire que votre corps, vos pulsions, tout ça agisse mal, ça doit être soumis au spirituel qui, lui, n'est que bien. Ça éclaire, n'est-ce pas, de penser comme ça? Votre esprit, c'est votre partie divine, c'est ce qui est éternel, c'est ce qui retournera à Dieu. Votre chair, elle va à la décomposition aussitôt que vous naissez. Aussitôt que vous naissez, vous commencez déjà à mourir. On le sait. J'allais dire, c'est scientifiquement prouvé, mais il n'y a pas besoin que ce soit la science qui nous le dise. La Bible nous le dit déjà. Notre âme, notre être, notre corps, il a besoin d'être sauvé. Il sera racheté lors de... C'est écrit en dernier, hein. C'est pourquoi Jésus nous enseigne à prier en disant « Délivre-nous du mal ». Ça signifie « Sauve-nous ». Ça signifie « Apprends-nous à ne pas faire ce qu'il ne faut pas faire ». Hein, on délivre un enfant du mal en lui apprenant le pot. Et puis après, on le délivre du mal en lui apprenant de dire autre chose, mais ça commence par le pot. Oui ou non? Oui, oui, ça commence par le pot. On appelle ça la période rectale, après la période buccale, c'est comme ça. Tous les psychiatres, tous les pédopsychiatres vous le diront. Si vous ne voulez pas, si vous voulez rester dans l'ignorance, ben restez dans l'ignorance. Si vous voulez être hyper spirituel et que je vous parle que des petits oiseaux du ciel, bon ben d'accord, si vous êtes choqué parce que j'ai dit caca, oh mon Dieu, quelle affaire. Au moins on comprend quand on... La contemplation, ce que vous êtes, sans réfléchir, mais juste en contemplant dans le silence, ça vous ouvrira les yeux de l'esprit, mes frères et sœurs. Désolé, moi, dans le bruit, je ne peux pas. Je ne peux pas. L'autorité, elle n'a pas besoin du bruit pour se manifester. Jésus, il ne hurlait pas. Même quand il chassait un esprit sourd, il ne hurlait pas. À croire que les esprits sourds ne sont pas sourds. Alors, à combien plus forte raison Dieu? En plus, avec un micro, mais quelle horreur. Dieu, il se manifeste dans un bruit doux et léger, nous dit la Bible. Il n'est pas dans le tremblement de terre, il n'est pas dans le vent violent et fort, il n'est pas dans le feu, il n'est pas... Il est dans le murmure doux et léger. Un roi 11-12. On va dire, oui, mais Dieu est omniprésent. Oui, Dieu est omniprésent. Donc, il ne peut pas ne pas être dans le tremblement de terre. Mais bien sûr que Dieu est dans le tremblement de terre, il est dans tout. Il est dans le tremblement de terre, il est dans le vent violent qui casse les rochers, il est dans le feu qui fout la... Il est partout, il est dans tout, c'est sûr. Mais là, Dieu voulait attirer l'attention d'Élie, qui était un sang chaud, qui avait une nature brûlante, secouante. C'était un homme qui aimait faire trembler les cœurs, qui faisait des actions terribles, n'est-ce pas? Il était très démonstratif et il voulait Dieu lui montrer que dans le silence... Enfin, tranquillité, doux et léger. Voilà, c'est là que je me tiens, moi. Alors, Élie a dû apprendre ça et se tenir aussi dans le silence pour aussi réfléchir, méditer, mais contempler l'Éternel. Dieu n'avait rien contre le fait que Élie soit bouillant comme ça, mais ça l'a amené où finalement, ce pauvre Élie, d'être bouillant comme ça, de décapiter les prophètes, tout ça, hein, ben, au suicide. Au suicide. Pas très équilibré le bonhomme. Hein? Et Dieu a voulu donc lui apprendre autre chose. Alors apprenez autre chose. Dieu voulait lui apprendre la douceur, la tranquillité. Il voulait lui montrer qu'il se faisait très bien comprendre en parlant doucement dans un monde de brutes. Et je suis suisse et donc élevé dans un pays de douceur. La douceur c'est un fait là-bas. Vous franchissez la frontière tout de suite avant les Rolex. C'est d'abord la douceur, la propreté, la belleté, comme disent les gitans. J'étais influencé comme ça. Donc, j'aspire à cette douceur qui émane de cet esprit qui repose sur le pays où je suis né, la contemplation. Regarder les belles montagnes, prendre du temps pour regarder les torrents dans ces belles montagnes, regarder le lac qui change de couleur toutes les 10 minutes parce qu'il y a le fun. Vous savez pas, c'est le fun, vous, c'est le vent. On a un vent qui s'appelle le fun chez nous. Et puis voilà, alors le fun qui souffle sur le lac, ça le fait changer, il passe du gris argent, tout d'un coup il devient bleu, après il devient vert turquoise, après il change encore. Mais c'est magnifique, contempler la nature de Dieu, et puis contempler toutes ces capacités génétiques qui sont les nôtres. Contempler ça, plus contempler toutes ces expériences, toutes ces idées reçues, toutes ces idées qu'on a reçues, tout ça, mes frères et sœurs, ça ne peut être discipliné que par la contemplation. Dans le calme, la confiance sera ta force. La contemplation vous illumine sur ce que vous êtes, sur vos bases génétiques, sur vos acquis. Et le faisceau de la lumière du Saint-Esprit fait converger tout ça en un seul point. Ce qui exauce la prière de Jésus, qu'il soit un. Ça ne veut pas dire qu'il faut que seulement que je sois un avec vous, il faut que je sois un moi-même. Il faut que je sois un, c'est-à-dire intègre, c'est-à-dire entier. Le mot intègre, ça signifie entier. Ça ne veut pas dire sans péché, ça veut dire entier, intègre. Alors soyez un avec votre corps bien mal. Soyez un avec votre corps bien mal et avec votre esprit qui est bien. Mais votre esprit, il est discret. Votre esprit, il est discret, il ne va jamais s'imposer bruyamment. Il est comme Dieu. Est-ce que vous avez déjà vu Dieu qui s'impose bruyamment dans votre vie? Non. Votre âme, à chaque instant, elle n'arrête pas de capter tout le temps des impressions visuelles, auditives, tactiles. Elle ressent toutes sortes de choses, toutes sortes d'émotions. Et il y a des milliers de pensées qui s'agitent dans votre tête. Et il y a toujours ce babillage. Ça vous fait penser à l'intérieur. Il y a toujours ça. Et tout ça, ben, c'est de la chimie. Ils ont raison, les scientifiques. C'est de la chimie. C'est rien d'autre. C'est de la chimie. Vos émotions sont ressenties par votre être, qui a un contact extérieur uniquement par votre chair. C'est des molécules, c'est des liquides, c'est des glandes qui émettent toutes sortes de choses. Ça vous fait en colère, ça fait des réactions, on appelle ça l'adrénaline, etc. C'est de la chimie. Hein? Tu es frappé de voir que, par exemple, certains démons, vous leur mettez de la chimie, ils se calment. C'est bizarre, hein? Ce n'est pas des démons si c'est de la chimie qui les calme. Il ne faut pas rigoler. Il faut arrêter d'être moyenâgeusement bête, hein, dans les églises. Il faut arrêter. Pardon de dire du mal des églises. Je ne dis pas du mal des églises. Je dis qu'il ne faut pas être comme ça, c'est tout. Par exemple, vos émotions ne sont pas spirituelles. Elles sont charnelles. Toutes vos émotions. Quand les gens prétendent, voilà, je sens la présence de Dieu. C'est charnel. Parce que vous sentez avec votre chair. N'est pas à me dire le contraire. N'est pas à me raconter des histoires qui ne tiennent pas debout. Votre chair n'est ni bien ni mal. Par contre, ce qui peut devenir mal, c'est ce que vous faites avec vos émotions. C'est comment vous vous laissez conduire par vos émotions. Alors, contemplez tout ça. Hein. Pendant la contemplation, votre attention, elle est de moins en moins dispersée. Vous focalisez sur une chose. Vous regardez, vous contemplez quelque chose. Quand vous êtes par exemple dans la montagne et donc vous voyez un aigle qui prend son envol, vous regardez cet aigle, vous le contemplez, vous ne regardez plus le bruissement des feuilles, vous ne regardez plus ça, vous regardez l'aigle, vous focalisez là-dessus. Eh bien, vous focalisez, vous regardez, vous contemplez une chose que Dieu a créée. Tout, sans réfléchir, rien, vous regardez. Moi, quand je regarde un aigle, je ne suis pas en train de me dire, il vole à quelle vitesse? Mais je suis comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Par exemple, là, je suis en train de vendre ma voiture. Et sans arrêt, les bonhommes, ils posent la question. C'est un V6? Oui, je crois. J'ai toute une liste devant moi pour leur répondre, mais je ne sais même pas ce que ça veut dire, V6. Est-ce qu'il y a les charamaneux à bout filtre? Oui, mais moi, je sais pas, moi, je m'en fous. Pourvu qu'elle soit belle, qu'elle soit confortable, et puis qu'elle m'emmène là où je veux. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis comme ça, c'est ma nature. Et c'est une bonne chose d'être comme ça. Et on apprend à être comme ça si on n'est pas comme ça. Si on est excité de service, on apprend à se calmer, on s'assied, et puis on regarde simplement, on apprécie, sans réfléchir. Hier, on parlait avec Philippe, il m'expliquait les pistons. Je disais, mais pourquoi on dit 2 litres 5, 2 litres 7? Ça veut dire quoi, c'est par rapport à quoi? Alors, il m'expliquait, c'est à cause des pistons, la vitesse à laquelle il tourne. Je ne savais même pas qu'il y avait des pistons dans une voiture. M'en fous, pourvu qu'elle roule et que ça fasse le moins de bruit possible, que je puisse bien entendre la belle voix qui sort de mes haut-parleurs. Je suis un peu bête, si vous voulez, mais heureuse. Hein, les enfants, disons. Alors tout votre système nerveux qui est normalement bombardé par, normalement, c'est normal, c'est bombardé par des stimuli extérieurs innombrables, c'est affaibli finalement. Votre système nerveux, il est affaibli. Et alors la contemplation, ça apaise votre âme, ça apaise ce que vous êtes. Le stress, vous aimez le stress? Un petit peu. Peu, c'est nécessaire, hein, mais il ne faut pas que ce soit ça qui dirige, qui conduise votre vie. Alors, pour contempler, il va falloir d'abord vous asseoir. Asseoir votre corps confortablement. Alors, il y en a qui se mettent en position du lotus, je déteste ça. Il y en a qui se mettent à genoux, je déteste ça. Alors moi, c'est non, c'est assis. Pas couché parce que je ne médite plus, je contemple plus, je dors. Alors, assis, c'est très bien, mais pas dans un fauteuil trop mou non plus, hein. On ne peut pas entrer en contemplation, mes frères et sœurs, si on ne discipline pas notre corps. Il faut discipliner ce qu'on peut discipliner d'abord. Hein. La première chose, c'est le corps. Alors, on va se tenir droit dans un fauteuil, mais pas raide, hein, mais droit quand même, dignement, pas avachi, avec les poumons, on ne peut plus respirer, on est complètement avachi. Non, non, bien droit, comme ça. Alors, pas dans un fauteuil trop mou non plus, puis vous obligez votre corps à respirer profondément. Vous dire, ah, c'est du yoga que c'est. Mais non, arrêtez. C'est pas parce que ça ressemble à un truc. Mais c'est des gens qui ont réfléchi à des choses et puis qui ont vu que c'était bon. Puis bon, puis voilà, puis ils en ont fait une discipline de yoga ou je sais pas comment. On s'en fout. Vous avez un corps, respirez avec votre corps d'une façon bonne plutôt que de respirer d'une façon mauvaise. Vous voyez, c'est pas un truc spirituel. Là, je suis en train de vous parler de votre corps. Alors, respirez profondément pendant un bon moment, ça va oxygéner votre système, votre cerveau, ça va lui faire du bien. Et puis ensuite, une fois que vous avez bien respiré un bon moment, que vous sentez mieux, voilà, eh bien, vous fermez vos yeux. Pourquoi ? Eh bien, pour ne pas être distrait par tout ce qui se trouve autour de vous. Parce que quand on est assis et puis qu'on a les yeux ouverts, donc on va dire, ah tiens, un peu de poussière là-bas. Il faudra que je nettoie ça. Puis, oh, je vois qu'il y a une tache de doigt sur le tableau. Des tas de trucs. Moi, je suis comme ça. Alors, donc, je ferme les yeux. Comme ça, je ne suis pas distrait par tout ce qui se passe autour. Et puis, vous ne pouvez pas, mes frères et sœurs, on ne peut pas discipliner nos pensées, notre agitation intérieure, si on ne discipline pas d'abord notre corps. On ne peut pas. Alors, il faut que vous preniez les commandes sur ce que vous pouvez. Sur votre corps, vous pouvez. Vous pouvez l'obliger à rester tranquille. Ce n'est pas facile. Mais voilà, de moins en moins de personnes sont capables de s'asseoir avec rien dans les mains ou rien sur les oreilles pour la musique et tout. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas facile, mais il faut commencer par là. Alors, quand vous en êtes là, avec les yeux fermés, une respiration tranquille, alors vous allez entendre un babillage intérieur, ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, cette petite voix. Si je lui dis ça, on va voir comment il va réagir. En tout cas, je ne veux pas lui passer. Ça ne vous fait pas ça, vous? C'est terrible, cette petite voix intérieure. On aimerait bien, et je coupe le son, mais ça ne marche pas, on n'a pas la zapette. Alors Jacques nous dit que la langue, c'est le plus petit membre de notre corps, mais il dirige tout le corps. Il a bien raison. La langue mentale, c'est la même chose. Oh, ça parle sans arrêt. Penser à rien, c'est pas possible. Hier soir, avec Michon, on regardait un film. Puis il y en a un qui méditait. Alors, il a dit une chose. L'autre lui disait, mais c'est quoi méditer? Il lui disait, c'est trouver l'espace entre une pensée et une autre. Mais ça, c'est des phrases. Ça veut rien dire. Et alors, il disait, pense à rien. Puis l'autre dit, c'est impossible. Il dit, mais tu comprendras plus tard. Mais c'est pas vrai qu'on peut penser à rien. Allons. Alors, comment faut faire pour apaiser au moins cette petite voix intérieure? Ben, il n'y a qu'un seul moyen, c'est de remplacer ce babillage intérieur par un autre babillage. Ça, je vous parle de mon expérience. Hein. C'est peut-être pas phénoménal. Excusez-moi si ce n'est pas trop spirituel, mais moi, j'ai choisi ça. Alors, écoutez bien comment moi je fais. J'ai choisi une phrase qui me ressemble. Vous allez en choisir une qui vous ressemble à vous et qui a une signification spirituelle pour vous, qui veut dire quelque chose de profond pour vous. Puis vous répétez cette phrase doucement pendant à peu près 5 minutes. Moi, ça suffit, 5 minutes, pour que je trouve le rythme avec ma respiration. Bon, je sais très bien, vous allez me dire, Jésus a dit qu'il ne fallait pas faire des vaines redites. Hein, vous connaissez le texte? Ben non, vous ne le connaissez pas, on va le lire. Matthieu 6, 7, 8. Parce que les vaines redites, c'est pas ça. Matthieu, je dis combien? 5, 6, 7, 8. Ah ben en plus, c'est facile, mais vous voyez. Mémoire d'un poisson, moi, 2 secondes. C'est Jésus qui parle. Il dit, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas les vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. D'accord? Donc, quand je répète une phrase comme ça pendant 5 minutes, je ne suis pas en train de faire des vaines redites. Pourquoi? Parce que je ne suis pas en train de prier. Hein? Vous avez compris? Jésus dit, c'est quand vous êtes en train de prier, il ne faut pas faire des vaines redites. Mais il ne dit pas quand vous contemplez. Contempler, ce n'est pas prier. Si vous voulez contempler, c'est une prière. Ma vie, c'est une prière, dira le poète dans ses envolées lyriques. Mais, alors à ce moment-là, on peut dire que la prière, quand vous demandez quelque chose à Dieu qui sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez, ça, c'est des prières requérantes. Mais la contemplation, ce n'est pas une prière requérante, c'est la contemplation, c'est une prière de contemplation, si vous voulez. C'est une prière, vous êtes là dans la contemplation, vous regardez, vous observez les choses que Dieu a faites, c'est merveilleux, tout. Vous n'êtes pas en train de demander, donc vous avez le droit de faire non pas des vaines redites, mais des redites. En contemplant, vous ne demandez rien à Dieu. Pour ma part, j'aime me dire une chose et me la répéter et je me dis, qu'est-ce que je me dis à ce moment-là? Je dis une petite phrase toute simple, aie confiance en Jésus-Christ. Alors là, comment je fais? Je suis assis, je suis tranquille, je ferme les yeux, je respire tranquille, puis je dis, aie confiance en Jésus-Christ, 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 aie confiance en Jésus-Christ. Et petit à petit, vous voyez, je trouve le rythme, la phrase et le souffle, et ça se met ensemble, et ça fait un tout, et ça commence à devenir comme un chant, hein? Aie confiance en Jésus-Christ. Je le dis à personne d'autre qu'à moi, je ne le dis pas à Jésus, je me le dis à moi. Je ne le dis pas aux autres, je le dis à moi. En disant cette phrase, petit à petit, arrêtez de respirer avec la bouche, commencez à respirer avec le nez. Commencez à respirer, si vous pouvez, hein, si vous êtes enrhumé, vous ne pouvez pas. Et puis parlez doucement. Si vous pouvez, parlez juste en bougeant, en bougeant les lèvres, très doucement. Et puis prenez ce rythme. Faites ça pendant à peu près 5 minutes, 2-3 fois par jour. Et vendredi prochain, je vous expliquerai la suite. On parlera pendant la semaine, on parlera dans la communauté de vos expériences que vous avez faites avec ça. Et puis vous qui êtes sur Internet, qui nous écoutez, ben vous m'écrivez, vous me dites ce que vous avez pensé de cette prédication, ce que vous avez vécu pendant vos moments de contemplation. Racontez-moi votre expérience et vendredi soir, ben je vous enseignerai encore d'autres choses, on ira plus loin. On a vu juste une base ce matin, juste on avait mis une base, n'est-ce pas? Parce que frères et sœurs, avant de vouloir contempler Dieu, il faut apprendre à contempler ce qu'il a créé. Vraiment, beaucoup de gens commencent par la fin. Si on lit Romains 1, 20, je crois que tout est dans la parole de Dieu, mais on ne fait pas attention. Romains chapitre 1, verset 20. Écoutez, c'est tout simple, mais il faut encore comprendre ce que l'apôtre Paul veut nous dire là. Il nous dit quoi? Il nous dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voit fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut voir Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, en considérant, en contemplant la création. Alors pourquoi est-ce que vous allez essayer d'avoir des expériences super spirituelles, la bouffe filtre, des choses évanescente, je ne sais pas si ça se dit, éthérée, de trucs, de machins, de visions. Non! Commencez par le commencement. On voit très bien la divinité et toute la puissance de Dieu rien qu'en contemplant l'œuvre de ses mains qu'il a faite depuis la création. On peut tout voir là. Alors commencez là. Arrêtez d'être orgueilleux et de vouloir avoir des visions d'anges et d'entités spirituelles et de je ne sais quoi. Et de musique céleste, on entend des gens complètement dingos qui vous racontent qu'ils entendent des... Mais moi aussi j'entends des orchestres de Dieu et des symphonies et des choses merveilleuses. Mais c'est pas ça. Mais merci Seigneur, à côté de ça j'ai un équilibre. Vous avez des dingos, ils recherchent ces choses. Alors évidemment, ils entendent, ils voient, ils ont des trucs. Mais à côté dans leur vie, ils valent rien, c'est nul, c'est zéro. Ils sont à l'échec, dans tous les domaines. C'est dommage! C'est peut-être parce qu'on ne les a pas instruits à être équilibrés. Moi, je vous instruis à être équilibrés. Commencez par contempler l'œuvre de Dieu dans sa création. Et vous verrez Dieu, sa toute-puissance et sa divinité dans la création, dans les choses qu'il a créées. Alors, avant de contempler les autres, contemplez-vous vous-même. Je ne dis pas réfléchissez à vous-même. C'est autre chose. Là, je vous parle de la contemplation. Ça veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir à soi. Mais il y a des moments de contemplation où vous êtes simplement en train de vous contempler. Regardez comment Dieu a fait les choses. Quel bonheur d'être soi-même. Je vous parlerai vendredi prochain de choses. Vous allez voir, ça va être un peu drôle même. Ça va être sympathique, ça va être amusant. Mais c'est formidable. Ce que Dieu a fait, c'est formidable. Et on ne prend pas le temps de s'y arrêter. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage. Beaucoup de gens souffrent et vont voir toutes sortes de gens qui leur prennent un pognon pas possible. Alors là, ils donnent du plus. S'ils vous donnent beaucoup de pognon, ça veut dire que voilà, il y aura une grande influence. Rien du tout, rien du tout. La plupart de ces gens-là, voilà, c'est dommage. On a tout dans la Bible. On a tout dans la Bible. Et frères et sœurs, que Dieu vous bénisse avec ça. Amen. Ça vous a fait du bien. Ça vous aide à comprendre certaines choses, j'espère. Vous qui écoutez sur Internet, vous m'écrivez. Surtout, hein, ne pensez pas que je méprise ce qui se fait dans les églises. Pas du tout. Mais ça m'en obligé. On a des points de référence, des points de repère. Ça, ces trucs-là, ça, c'est ce qu'il faut éviter. Faut pas tomber dans ces trucs-là. C'est pas vrai. Ces espèces d'exaltations fabriquées, c'est de la chair. C'est de la chair, je vous promets. C'est pas vrai, c'est pas authentiquement spirituel, c'est de la chair. Alors il faut que ce soit l'esprit qui prenne le dessus sur la chair. Et puis alors la chair, après, quand elle est contrôlée par l'esprit, alors là, on n'a plus rien à dire, c'est bon. Mais j'ai rarement vu ça, hein. Rarement. On n'est pas dans les milieux évangéliques et surtout charismatiques, on n'est pas les balèzes de la contemplation, et pas du tout. On est les balèzes de l'émotion, oui, mais l'émotion, c'est de la chimie. Étudiez, regardez, soyez honnêtes. L'autre soir, j'ai bien aimé le frère Taligano, je ne sais pas si vous connaissez, il était là, c'était un des orateurs. C'est ce noir-là qui est tellement bouillant quand il prêche, on dirait Fernandel. C'est terrible. Et il disait qu'il y a des erreurs qui se sont installées dans l'Église. Il disait par exemple, l'onction. Il dit, il n'y a pas d'histoire d'onction, c'est faux. Ça me faisait plaisir parce que ça fait des années que je chante ça dans le monde entier et que j'essaie de faire comprendre ça aux chrétiens. Ils me regardent comme, avec des yeux comme si c'était des roues de char. Mais qu'est-ce qu'il vient nous dire, il n'y a pas d'histoire d'onction. Ils sont tous à la recherche d'une onction. Ils disent même que j'ai l'onction de Taylor Osborne, c'est pourquoi j'ai des guérisons comme ça dans mon ministère. Mais c'est faux, archi faux, complètement faux. Il n'y a pas d'histoire d'onction. Nous avons été baptisés, immergés, remplis du Saint-Esprit. Voilà autre chose. C'est pas leur truc. Donc c'est des inventions. C'est des inventions. Alors arrêtez avec vos inventions et vos machins qui n'existent pas. On ne va pas tomber là-dedans. Il faut dénoncer ces choses-là. Et il faut que les gens qui m'écoutent sur Internet comprennent. Il faut qu'ils sachent la vérité. Et la vérité, elle se compare avec l'erreur. Il n'y a pas le haut sans le bas. Je ne peux pas vous dire, voilà, je suis obligé de vous dire, il y a le bien et le mal. Il faut arrêter avec ce qui est mal, avec ce qui est inutile, avec ce qui est vil, avec ce qui est la chair, ce qui est la chimie, ce qui n'est pas bon. Il faut être spirituel. Et pour être spirituel, je ne vais pas vous reprêcher le message, réécoutez-le, vous allez apprendre. Réécoutez ce message. Et puis, parce que c'est vrai que c'est un peu différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre dans nos églises évangéliques, en particulier charismatiques, pentecôtistes. Alors, apprenez et grandissez. C'est là tout mon vœu et tout le souhait de Jésus pour vous. Amen. Merci Seigneur pour cette prédication. Veuille nous garder dans ta paix et nous permettre de cultiver cette paix et d'aller plus loin avec toi et de nous réjouir dans la simplicité, dans la douceur, dans la tranquillité, mais avec fermeté en ton nom Jésus. Amen.
En fait, sur le terrain, on joue au foot avec tonton Mathieu et j'ai essayé d'arrêter la balle. Mais en fait, j'ai fait un grand écart et tonton, il s'est pris son pied dans ma jambe et après, je suis tombée sur le genou. Et alors, après, j'ai eu très mal. Et puis, j'ai pleuré.
Après,
on est rentré au château.
Et c'est tout.
Oui, c'est tout.
Mais non, c'est pas tout. Merci. Qu'est-ce que tu m'as demandé hier soir?
De prier pour moi.
Ouais. C'est ça le principal, on s'en fout que t'aies mal au genou. Quand on veut savoir, c'est ce que Jésus a fait pour toi. Alors, qu'est-ce qu'il a fait pour toi?
Il a guéri mon genou.
Il a guéri ton genou. T'avais un gros bandage, tu pouvais pas plier ton genou.
Oui.
Et puis après, le mal est parti tout de suite.
Oui.
Et puis maintenant, tu peux bouger ton genou. Tu veux nous montrer comment tu bouges ton genou? Vas-y, montre-nous. Ça fait plus mal.
Non, ça fait plus mal.
Le nom de Jésus soit béni. Vous pouvez applaudir. Gloire à Dieu.